Bien, donc pour poursuivre une communication sur l'effet réversif de Patrick Thore.
Sur l'anthropologie de Darwin, plus précisément. Patrick Thore sera le moyen, mais pas le but. Donc je vais en profiter pour vous distribuer quelques documents, si ça vous intéresse. Des textes qui concerneront ma troisième partie, et un tableau récapitulatif qui pourra servir de base à une bonne critique, je vous fais confiance. Je suis bien heureux d'être avec vous à Poitiers, donc je dois remercier quand même le président de l'Espace Mendès France, Madame Bonnefoy, et bien entendu mon directeur de thèse, Olivier Perru, que je remercie, qui me permet de partager une partie de mon travail, et j'insisterai sur les mots, c'est l'avancement d'une partie de mon travail et pas un achèvement. Alors mon objet sera la pensée de Darwin, une pensée datée, d'une époque socialement difficile, et je m'en tiendrai à cela. Mon désir général serait de voir s'établir un consensus sur la pensée de Darwin, issu d'un travail collectif et dans un esprit scientifique. Et mon problème général, celui que je vais traiter devant vous, consiste à comprendre comment en est-on venu à tout faire dire de Darwin. Apologiste de la lutte, darwiniste social, eugéniste, malthusien, sans parler des personnes qui confondent encore le struggle for life avec l'agressivité ou la prédation. Et face à toutes ces critiques, on trouve une bien noble vision. Merci. On trouve une bien noble vision, insistant sur le fait que si l'on avait su lire Darwin, on aurait compris que le sens fondamental de l'évolution humaine, son sens comme sa signification, n'était en fait que la protection croissante des faibles. Et c'est justement Patrick Thore qui soutient cette dernière interprétation. C'est lui qui peint sans conteste le plus beau Darwin. Et c'est pourquoi sa pensée est incontournable et signifiante pour notre problème. Alors, c'est dans cette perspective qu'intervient son effet réversif de l'évolution, jamais nommé, mais décrit par Darwin, dit-il. L'effet réversif de l'évolution veut mettre en valeur ce biotope humain qui est la civilisation. Et ce dernier fonctionnerait selon la protection des faibles, là où la nature opérait par leur élimination. Tel serait le renversement évolutif. C'est ainsi que, je cite Patrick Thore, par la voie des instincts sociaux, la sélection naturelle sélectionne la civilisation qui s'oppose à la sélection naturelle. Il n'y aurait donc pas de relais, mais bel et bien un renversement. Et c'est cela qui invaliderait le supposé darwinisme social de Darwin. On doit ajouter que cette protection des faibles dans la civilisation serait non seulement biologique par la médecine, mais aussi économico-sociale. La nature sélectionnerait ainsi des instincts sociaux, c'est-à-dire bienveillants, coopératifs, altruistes. La sympathie en est un élément clé, et si elle est limitée au départ aux membres de la même tribu, elle a pour vocation de s'étendre au genre humain et même jusqu'aux animaux inférieurs. Cette extension de la sympathie impliquerait non pas que le conflit s'est reporté entre groupes ou entre nations, mais bien plutôt que tout ce qui nous empêcherait de reconnaître en autrui notre semblable serait pour Darwin une régression morale, c'est-à-dire le retour monstrueux d'un caractère sauvage, finalement. Afin d'illustrer cette idée de renversement évolutif de la nature à la civilisation, Patrick Thore propose... Je parle trop fort ? Ça va bien ? Patrick Thore propose le ruban de Möbius. Le gradualisme est ainsi préservé par ce passage sans rupture, nous dit Patrick Thore, mais seulement effet de rupture, dit-il donc. Donc sur une phase, vous avez la sélection naturelle avec élimination des faibles, et progressivement, vous verriez apparaître la civilisation, elle-même sélectionnée par le biais des instincts sociaux, avec cette fois la modalité protection des faibles. Mais la protection des faibles n'est-elle pas incompatible avec les déclarations suivantes, et n'est-ce pas cela qui pourrait être le darwinisme social? J'attaque donc ma partie critique en opérant un retour sur l'œuvre. Je vous lis les occurrences. Alors, l'homme subit les mêmes maux physiques que les autres animaux. Il n'a donc aucun droit à l'immunité contre ceux qui résultent de la lutte pour l'existence. S'il n'avait pas été soumis à la sélection naturelle pendant les temps primitifs, l'homme n'aurait jamais atteint le rang qu'il occupe aujourd'hui. J'aurais dû vous rappeler que j'utilise la, la deuxième édition de La Descendance de l'Homme, il y a eu un changement de chapitre entre la première et la deuxième édition. Deuxièmement, grande est certainement notre faute si la misère de nos pauvres découle non pas des lois naturelles, mais de nos institutions. Troisièmement, il ne faut donc employer aucun moyen pour diminuer de beaucoup la proportion naturelle dans laquelle s'augmente l'espèce humaine, bien que cette augmentation entraîne de nombreuses souffrances. Et là, ce qui est intéressant, c'est, je pense que Patrick Thore lit « c'est-à-dire », moi je lirais plutôt « de plus », il devrait y avoir concurrence ouverte pour tous les hommes, et on devrait faire disparaître toutes les lois et toutes les coutumes qui empêchent les plus capables de réussir et d'élever le plus grand nombre d'enfants. Je n'ai pas commenté la première citation, qui me semble assez claire. Concernant la deuxième, je pense qu'on peut dire déjà que ce n'est pas la pauvreté qui est condamnée. Et, me semble-t-il, c'est l'écart par rapport au modèle naturel, la méritocratie, qui, à mon avis, semble être le modèle le plus conforme et le plus analogue à la nature pour Darwin. Je commente la troisième citation. Il est intéressant de noter que là où je vois lutte pour l'existence, Patrick Thore entend émulation et compétition morale. Si la lutte pour l'existence doit se maintenir, c'est pour Darwin, car elle reste une garantie de sélection et donc de progrès. Elle est une condition de possibilité du progrès, en tout cas une condition qui favoriserait le progrès, me semble-t-il. Darwin parle bien de « natural rate of increase », ce qui veut bien dire qu'il y aura plus de population que la capacité du milieu ne le permet, condition nécessaire pour que la lutte reste effective et créative. On remarque ici que pour Darwin, le mérite doit se transcrire dans la descendance. Que la lutte pour l'existence était, est et sera utile pour tous les vivants, fussent-ils en civilisation. Dès lors, on est en droit de se demander si la sympathie ne s'est pas effacée devant la logique du progrès. N'était-elle pas censée être ce rempart à l'élimination des faibles, inhérente à la lutte pour l'existence ? Ne devrait-elle pas, par essence, lutter de plus contre les souffrances ? Alors, je vais attaquer ma première partie. Qu'est-ce que la sympathie chez Darwin ? En cinq moments, jeunesse progressive dans l'individu, dans le social, extension de la sympathie, rationalisation de la sympathie. J'aurais dû mettre rationalisation entre guillemets. Donc, la jeunesse progressive est assez simple. Je rajouterai peut-être le sens moral après. Pour Darwin, la société déjà ne serait pas possible sans les affections filiales. Et cette affection s'étend ensuite aux membres de la tribu, et on pourrait parler d'affection sociale. La sympathie arrive seulement après. Au passage, ce n'est pas un monopole humain, et vous voyez des textes où Darwin parle de sympathie chez les fourmis, par exemple. Alors, dans l'individu. Donc on va s'apercevoir qu'il y a un sens large et un sens restreint des instincts sociaux. Alors dans un sens large, les instincts sociaux englobent les trois autres cercles. Darwin dit par exemple que la sympathie est un élément fondamental des instincts sociaux. Dans un sens restreint, il signifie, je pense, les affections sociales. Nous allons voir que la sympathie a aussi un sens large et un sens restreint. Mais avant, dans le social. Alors, la sympathie reçoit et dispense les normes et les affects de culpabilité ou de fierté correspondants. On voit que la sympathie n'est pas un simple sentiment, mais est accompagnée de sentiments. C'est une faculté, entre guillemets, de réception et d'émission des normes, des sentiments des autres, sous forme d'éloge et de blâme. C'est bien l'influence d'autrui en moi, la marque sociale de l'individu. Darwin reprend donc la terminologie des Lumières écossaises et s'en démarque par son entreprise de naturalisation évolutive. C'est ainsi que l'opinion publique, l'éducation, la religion et les superstitions exercent une pression sociale sur les sympathies individuelles qui répercutent à leur tour cette perception de l'utilité, du bon et du mauvais, sur les autres sympathies. Extension progressive de la sympathie. Alors c'est là le sens large de la sympathie puisque vous voyez, il en parle au niveau de la famille. Alors, on part donc de la famille, on passe à la tribu, la nation, le genre humain. Et là, chose surprenante, nous dit Darwin, aux idiots, aux infirmes et autres membres inutiles de la société, pour en finir avec les animaux inférieurs. Je peux indiquer au passage qu'un monsieur bienveillant, hier, m'a indiqué que certaines lettres de Darwin avaient tendance à nous suggérer que Darwin lui-même pouvait se considérer comme faisant partie de cette classe-là. J'ai mis que membre inutile de la société, mais en fait, c'est infirme, idiot et autres membres inutiles de la société. Du fait, à mon avis, du fait de sa maladie, vu qu'il a été malade extrêmement longtemps, d'une maladie qu'il a contractée, je crois, au Brésil ou en Argentine, au Brésil. En tout cas, qui invaliderait. Moi non plus. Oui, en tout cas, ça pourrait peut-être invalider toutes les psychopathologies. Donc voilà, il y a sûrement des lettres qu'il faudrait que j'aille voir. Alors, moment important, rationalisation de la sympathie. On peut, à mon avis, structurer cette extension de la sympathie en trois stades, illustrant ce passage d'une sympathie instinctive à une sympathie étendue, socialisée et toute culturelle. Donc, un, l'instinctivité de la sympathie, deux, rationalisation de la sympathie, et trois, je n'ai pas trouvé plus élégant, débordement de la sympathie. Alors, le premier stade est instinctif et objet de sélection. La sélection travaille sur les affections filiales et les transforme en affections sociales, ainsi se constituent les groupes. Le passage au deuxième stade se fait par la raison et la culture, car c'est la simple raison qui indique que la sympathie doit s'étendre, dit Darwin. Page 134. Le dernier stade, lui, pose problème, et je vous demanderai d'être... On va en effet se concentrer sur ce stade-là. Car d'un côté, il fait pour Darwin la noblesse de notre nature, et de l'autre, il est inutile dans le cas des animaux, voire même nuisible dans le cas de la compassion. C'est l'idée, si vous voulez, d'une charité mal dirigée qui pourrait causer potentiellement une dégénérescence de la population si les êtres dits inférieurs se reproduisaient plus vite que les dits supérieurs. Donc Galton, en effet, soulignait ce genre de choses. Alors, étant potentiellement nuisible, la question se posera alors de savoir comment la sélection et où la culture pourrait-elle la maintenir. Donc, petite conclusion. Si chez Darwin, il n'y a pas de rupture entre l'homme et l'animal, il en va de même avec les facultés mentales, entre l'instinct et l'intelligence. Darwin parle toujours de différence de degré et non de nature. C'est pourquoi je me permets de dire ce que Darwin ne fait pas, que la sympathie devient une faculté. En tout cas, ce que je voulais exposer ici, c'est qu'on ne peut pas considérer la sympathie comme le simple fait de se mettre à la place d'autrui, non plus comme un simple instinct aveugle de compassion ou de bienveillance. La sympathie a un sens technique. Et à titre d'argument, on peut proposer le passage suivant. Le motif qui le porte à secourir ses semblables se trouve aussi fort modifié chez l'homme. Ce n'est plus seulement une impulsion instinctive aveugle, c'est une impulsion que vient fortement influencer la louange ou le blâme de ses semblables. L'appréciation de la louange et du blâme, ainsi que leur dispensation, repose sur la sympathie. Sentiment qui, ainsi que nous l'avons vu, est un des éléments les plus importants des instincts sociaux. La sympathie, bien qu'acquise comme instinct, se fortifie aussi beaucoup par l'exercice de l'habitude. Et conclusion principale, page 643. On voit ainsi que la compassion dépend de la sympathie qui dépend à son tour de l'environnement culturel. La sympathie étant toute sociale dans son contenu et toute naturelle dans son émergence, se trouve être instruite par l'idée que la société se fait de ce qui lui est utile selon son avancement. Alors, l'intérêt du groupe va-t-il vraiment avec la protection des faibles? La sélection maintient-elle ce caractère altruiste, semble-t-il nocif, tout en sachant que la morale est un élément fort du succès dans la lutte entre groupes et entre nations? Darwin parle bien de lutte entre nations, il y a des passages. Mais là, je fais référence à une page 143. Alors, Darwin choisit-il entre ce qui fait la noblesse de notre nature et l'utilité biologique de la nation? Y a-t-il contradiction? Est-elle résolvable? J'ai estimé que oui. On se demandera alors comment Patrick Thor interprète la sympathie dans son rapport avec la compassion envers les êtres dits inférieurs. Cela m'a conduit à un passage précis de la descendance de l'homme et à une traduction permettant de déceler, peut-être, un parti pris. Alors, je traiterai ça en trois points. La sympathie comme produit accidentel des instincts sociaux. L'altruisme, compassion, comme un produit inhérent de la sympathie. Et l'utilisation de cette traduction pour légitimer l'interventionnisme social. La protection des faibles serait aussi économico-sociale. En tout cas, j'ai déduit cela. Le darwinisme social serait ainsi étranger à Darwin. Bon. Mais avant de se pencher sur cette traduction, nous trouvons ailleurs une erreur assez significative. Le dictionnaire du darwinisme et de l'évolution, article sympathie. Et trois ans plus tard, la seconde révolution darwinienne, page 66. Et là, on voit que la sympathie est décrite comme un produit accidentel des instincts sociaux. Et j'ai pourtant bien regardé. Je pense que c'est une erreur. Darwin nous dit toujours « essential part, fundamental element ». Donc je pense qu'il y a déjà une piste, c'est d'ailleurs la piste que j'ai suivie, ce qui nous amène au problème de traduction central. En effet, je savais que Barbier, il y avait un passage où il ne disait pas que c'était la sympathie qui était un produit accidentel, mais la compassion. Donc je vous lis ce passage. « Notre instinct de sympathie nous pousse à secourir les malheureux. La compassion est un des produits accidentels de cet instinct. » Je suis allé voir la traduction de Patrick Thor, plus littérale. L'aide que nous nous sentons poussés à apporter à ceux qui sont privés de secours est pour l'essentiel une conséquence inhérente de l'instinct de sympathie. Logiquement, je vais voir l'anglais, qui nous donne « The aid which we feel impelled to give to the helpless is mainly an incidental result of the instinct of sympathy. » C'est pourquoi, à partir de maintenant, jusqu'à notre conclusion, on va se pencher sur l'expression de « incidental result ». Puis sur ces occurrences. Donc je me suis servi d'un dictionnaire du CNRS, qui est la propriété de l'Université de Caen et de Lyon, que je peux remercier au passage. Et voilà, donc c'est moi qui ai rajouté les flèches. Et on peut voir qu'il y a trois centres sémantiques, extraneous, étranger à, en dehors d'eux, casual, hasardeux, accessoire accidentel, adventitious, c'est toujours un peu la même idée, accessoire accidentel, fortuit. Cela donnerait, me semble-t-il, bien plutôt raison à Barbier qu'à Patrick Thor. Et évidemment, je suis dépendant de l'avis des linguistes. Je poursuis. Alors, incidental n'a pas de lien avec une quelconque inhérence, c'est-à-dire ce qui est lié d'une manière intime et nécessaire à quelque chose. Ce qu'a fait le traducteur, à mon avis, c'est amplifier les choses, passer de « incidental of something » à « incidental to something ». Vous voyez, c'est la deuxième case. On a « accompanying, attendant, concomitant ». Et de là, il passe à « accompagne nécessairement », c'est-à-dire avec l'idée d'une conséquence inhérente. Alors, une note explicative du traducteur, qui n'est pas forcément Patrick Thor, d'ailleurs, il faut le souligner, vu que nombreux professeurs ont travaillé à cette traduction, aurait été la bienvenue. Traduction qui, à l'exception de ce passage, est, je pense, la meilleure. Elle est plus littérale, alors que celle de Barbier était plus littéraire. Donc on a une fidélité au texte, sûrement plus pratique pour l'historien. Mais cela peut avoir échappé au traducteur, en dépit du quadruple contrôle scientifique et linguistique. Alors peut-être que les historiens des sciences auront une explication, ou me pardonneront si je me suis trompé. Alors, l'utilisation de cette traduction. L'antiracisme de Darwin se fonde donc non pas sur un décret d'égalité des populations humaines, mais sur une progression continue dans la reconnaissance de l'autre comme semblable, et procède d'un élargissement de la bienveillance. Vous avez vu ce que je viens de faire sur la sympathie, c'est vrai que le mot de bienveillance, bon, il n'est pas tout à fait déplacé, mais je n'adhère pas. Et là, il y a une note de bas de page qui nous dit « Cela implique chez Darwin un interventionnisme social qui l'oppose diamétralement au darwinisme social de Spencer et de ses partisans ». Donc il est intéressant de voir que c'était utilisé dans la préface. Bien. Intervient donc la citation en question. Bon. Alors il y a eu un glissement conceptuel, si on récapitule. Patrick Thor nous dit « La sympathie comme produit accidentel des instincts sociaux ». Darwin nous dit « Élément fondamental, essentiel ». Patrick Thor nous dit « La compassion, conséquence inhérente ». Là où Darwin nous disait « Produit accidentel » ou disons « Incidental result ». Alors, ce déplacement de l'accidentalité est troublant, et pour être encore plus clair, voilà ce qu'a fait, la logique me pousse à dire incidentellement, Patrick Thor. Je pense que cette image est, est claire. Alors, il est intéressant de noter que le déplacement de l'accidentalité se voit accompagné du déplacement correspondant de ce qui est essentiel. La compassion, l'altruisme instinctif, d'accidentels qu'ils étaient, se voit devenir essentiel dans la sympathie. Parallèlement, la sympathie, d'essentiel qu'elle était, se voit devenir un produit accidentel des instincts sociaux. Patrick Thore réduit donc la sympathie à la compassion, d'une certaine manière, et nous interdit de les désolidariser. Ceci étant dit, car Patrick Thore n'était pas le but, mais le moyen, car il s'agit de comprendre l'anthropologie de Darwin, il reste à savoir ce qu'il en est exactement de ce produit accidentel. La compassion, pour répondre notamment à ce genre de questions, la compassion instinctive est-elle un trait dérivé, neutre, positif ou nuisible de la sympathie? Quel est son avenir probable pour Darwin? Nous en venons donc naturellement à vérifier les occurrences d'incidental result, et j'attaque ma troisième partie, que j'ai appelée « Avenir et nature de quelques traits dérivés ». En cinq parties, qui sont cinq exemples. Et ce qui est entre parenthèses représente des citations où vous avez seulement incidental ou incidentally. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a seulement trois occurrences de l'expression incidental result dans la descendance de l'homme ou filiation de l'homme. Alors, je ne les lirai pas parce que normalement, vous les avez sur papier. Ce sont ces occurrences-là. Alors, grand A. La conscience et l'abstraction. Alors ici, on a l'idée de l'usage et de l'hérédité de l'usage. On en profitera pour souligner que Darwin n'est pas pansélectionniste, mais au contraire partisan du pluralisme explicatif. Hérédité de l'acquis, sélection naturelle, sélection de groupe, sélection sexuelle, variation corrélative, effet de la nourriture parfois, influence du climat, et même, comme le dira Gould, exaptation. Ici, c'était l'idée qu'il y ait une sorte d'emballement ou de... Oui, dans un emballement évolutif entre l'usage du langage qui perfectionne notre cerveau perfectionne le langage, et ainsi de suite. On a une sorte de rétroaction positive. Et là, j'ai souligné en jaune, incidental result est traduit par résultat accessoire ici. Grand B, l'apogée de la stérilité. Alors ici, Darwin nous dit que c'est le germe réagit, c'est-à-dire nous sommes en face d'une marque de fécondation, certes, mais qui ne produira pas une seule graine. D'où l'idée d'apogée. C'est l'idée, si vous voulez, d'un processus raté, non sélectionné, mais je n'ai pas assez travaillé toute cette question. Mais il faut savoir, par exemple, l'incidental intervient surtout dans le chapitre 8 sur l'hybridation dans l'origine des espèces. Donc je pense que vous pourrez me renseigner sur cette chose-là. En tout cas, j'ai bien souligné, ne peut résulter de la sélection. Ça, on en est sûr. Est incidental ce qui ne résulte pas de la sélection. Alors, incidentally apparaît aussi dans ce cas-là. Et si vous vous souvenez, c'est le troisième stade de notre extension de la sympathie, l'extension de la sympathie aux animaux, j'aurais dû rajouter inférieur. Alors, par contre, celui-là, je vais vous le lire. Les mêmes hautes facultés mentales qui ont tout d'abord conduit l'homme à croire en des agents spirituels invisibles, puis l'ont conduit au fétichisme, au polythéisme et enfin au monothéisme, devaient le conduire infailliblement, tant que ses capacités de raisonnement demeuraient pauvrement développées, à diverses étranges superstitions et coutumes. Beaucoup d'entre elles sont terribles quand on y pense, comme le sacrifice d'êtres humains pour un dieu sanguinaire, le procès des personnes innocentes soumises aux épreuves du poison ou du feu, la sorcellerie, etc. Et pourtant, il est bien de réfléchir occasionnellement à ces superstitions, car elles nous montrent quelle dette infinie de gratitude nous devons au progrès de notre raison, à la science et à notre connaissance accumulée. Ces conséquences misérables et indirectes de nos plus hautes facultés peuvent être comparées avec les erreurs accidentelles et occasionnelles des instincts des animaux inférieurs. Alors, j'ai trouvé ce passage assez intéressant. C'est l'idée de se faire abuser par sa propre nature, ses instincts ou même facultés. Cela peut évoquer bon nombre de choses. Qui sait mon interprétation ? Et plus précisément, c'est l'idée de conséquences accidentelles ou d'effets pervers de traits pourtant sélectionnés, c'est-à-dire adaptés et donc utiles. Alors j'accélère. Notre problème de traduction. On y revient puisqu'il fallait comprendre son sens. Alors ici, Darwin souligne bien le côté nuisible de la compassion, mais rappelle que la noblesse de notre nature nous empêche d'agir en eugéniste. Si l'avantage d'une telle pratique est dite éventuelle, c'est parce que les lois de l'hérédité ne sont pas encore connues. En revanche, la souffrance morale d'une telle action serait, elle, certaine. Je n'en tire donc pas la conclusion qui consisterait à dire que Darwin voudrait faire violence à notre altruisme instinctif. Nous avons jugé aussi utile de vous apporter une autre référence, car elle permet de comprendre que l'homme le plus inférieur n'est pas le sauvage pour Darwin, mais le plus complet idiot, c'est-à-dire, c'est la traduction de utter idiot, qui se voit tragiquement placé en dessous des animaux inférieurs. C'est très dur et cela fait penser au développement de la deep ecology. Ainsi, alors, seules les superstitions, notre grand D et la compassion sont nuisibles. Donc on en a déduit que incidental result, c'était des traits qui n'ont pu être sélectionnés directement, qui se trouvent au-delà ou contre le principe d'utilité. Et là, c'est moi qui attribue, mais on peut estimer que notre cas numéro, enfin le A, qui était la conscience et l'abstraction, est un trait dérivé utile. B, l'apogée de la stérilité, trait neutre inutile. C, l'extension de la compassion aux animaux, neutre inutile. Mais D, les superstitions nuisibles. Et E, biologiquement parlant, la compassion plutôt nuisible, potentiellement nuisible. Et la question qui se pose, déjà, oui, c'est vrai qu'on se laisserait donc abuser par nos propres instincts ou facultés, tel est le lien entre l'instinct de compassion et les erreurs d'une rationalité émergente. C'est cela le lien aussi entre D et E. Et la question, c'est de savoir s'ils seront dépassés. Si oui, comment? Et je pense en effet que la superstition, comme le dit Darwin très clairement, en disant que c'est une conséquence du manque de raisonnement, ce sera donc déplacé par le développement de la raison. Et eux, concernant la compassion, je pense qu'elle sera dépassée, entre guillemets, par l'extension de la sympathie. J'en arrive donc à mes tableaux. Vous avez peut-être eu le temps de les regarder de plus près. Donc, en vert émeraude, je ne sais pas si ça a rendu vert émeraude, mais bon, produit accidentel, dérivé, incidental results. Flèche bleue, causation, flèche verte, agissure, influence, etc. Les flèches noires sont des désignations. J'ai mis des pointillés quand je veux parler de telle chose va intégrer telle chose. Enfin, je vais peut-être pas tout vous lire, mais en tout cas, quand je mets une flèche bleue suivie d'une interdiction, je veux dire cause l'annulation ou l'invalidation de. Donc, premier tableau de complexité croissante. Alors, vous reconnaissez le travail de la sélection sur les affections filiales qui donnent des affections sociales. Et on a des textes de Darwin, en effet, où les groupes qui ont le plus de membres qui ont de la sympathie l'emporteront sur les autres. Après aussi, on a des passages où Darwin nous dit, donc je parle des flèches en pointillés rouges, où Darwin nous dit que, évidemment, les facultés intellectuelles sont un trait majeur dans la lutte entre groupes. Développement de la technique qui se transmet ensuite par l'imitation. Donc vous reconnaissez aussi l'extension de la sympathie, j'ai numéroté, de 1 à 6, et vous reconnaissez aussi, dans notre première partie, quand je voulais souligner que la sympathie était aussi une faculté, l'opinion publique, l'éducation et les superstitions. Si vous regardez encore en haut à droite, vous voyez bien, j'ai écrit « développement supérieur des facultés rationnelles », qui est censé causer l'interdiction de la superstition. Donc elles seront dépassées. Vous remarquez que je n'ai pas mis une flèche vers la compassion avec une interdiction. Oui, oui, c'est un réflexe. Alors, ce qui est souligné ici, c'est que ces conséquences accidentelles non sélectionnées sont censées être dépassées par sélection de groupe et ou par l'éducation. Une éducation rationnelle dont la question sélective, à mon avis, devrait faire partie. Vu que Darwin nous dit souvent les connaissances de les lois de l'hérédité, c'est important, il faut les connaître et pour persuader l'opinion, je pense qu'on peut le voir comme ça. Alors, on voit que l'augmentation des facultés rationnelles, conséquence de la lutte de groupe, peut amener à rejeter les superstitions contraires à la prospérité réelle de la communauté. Alors le problème, cela veut-il dire que la compassion envers les membres, entre guillemets, inutiles de la société, devrait être annulée? J'aurais du mal à vous répondre. Je penche plutôt pour la négative. En revanche, ce que je peux dire, c'est que le changement du contenu des éloges et des blâmes devrait amener les dits inférieurs à normer leur comportement et s'interdire la reproduction. Alors, je pense que la sympathie pourrait certes être le siège d'une critique de la compassion, mais la sympathie n'annule pas la compassion. Son extension à l'avenir de la nation et du genre humain devrait avoir les effets biologiques souhaités par Darwin, c'est-à-dire les limitations volontaires, et cette fois par l'éducation et non pas par la sélection naturelle. Donc je vous propose maintenant le dernier tableau qui pourra servir de base à la critique, ou pas, je l'espère en tout cas, et j'en profite pour conclure. Alors premièrement, on voit que les instincts sociaux, la compassion et la sympathie sont à l'homme ce que l'aiguillon est à l'abeille. Un trait utile à la communauté est très indirectement utile donc à l'individu de la communauté en question. Deuxièmement, à la question du darwinisme social, nous avons peut-être montré qu'il n'y a rien qui nous indique une protection sociale des perdants de la lutte pour l'existence dans le biotope humain. Cette rééquilibration souhaitée par Darwin est là pour rétablir une méritocratie. Ce n'est certainement pas une volonté de société protectrice et égalitaire, et Darwin n'est pas socialiste. Alors, cette méritocratie est chez Darwin bien particulière, car le mérite doit se transcrire dans la descendance. Les meilleurs doivent propager leur qualité. Les perdants, de la nature comme de la société, eux, ne le devraient pas. Nous avons des passages très clairs, conclusion principale essentiellement. Alors, en reprenant la structure de l'expression de Max Weber concernant l'état et la violence, je pense qu'on peut dire que chez Darwin, les méritants se réservent le monopole de la reproduction légitime. Enfin, la noblesse de notre nature nous interdit de négliger les faibles et les infirmes ou d'agir en eugénite. Cela n'empêche que l'amélioration de l'humanité intéresse notre savant, et c'est à ce titre qu'il estime nécessaire un maintien de la lutte pour l'existence, comme nous l'avons vu. L'établissement d'une méritocratie biologiquement concrétisée, ce n'est peut-être pas une expression heureuse, une recherche poussée sur les lois de l'hérédité pour persuader l'opinion, et quatrièmement, une éducation rationnelle des individus sur ces questions de reproduction, de progrès, de conditions, de possibilités du progrès. Et c'est la sympathie qui reçoit et réémet le référentiel de l'utilité publique. La perception de l'utilité publique, nous l'avons vu, se matérialise par des éloges du côté de l'utile, des blâmes du côté de l'inutile. Darwin estime, semble-t-il, que si l'homme évolue suffisamment du point de vue de ses qualités mentales et morales, il comprendra de lui-même l'importance de ces questions et mettra dans la balance la légitimité de sa propre reproduction, selon ses qualités physiques, intellectuelles et sociales, c'est-à-dire richesse-pauvreté. Ainsi, par l'éducation et la bonne réceptivité des différentes sympathies individuelles, par le travail de l'habitude et la possible transmission héréditaire des vertus personnelles, Darwin insiste sur les vertus personnelles, telles que la patience, la chasteté et l'empire sur soi-même, les individus intérioriseront l'intérêt de la nation, de l'humanité et de son avenir. La volonté de progression morale n'est pas là uniquement pour exposer les bons sentiments de Darwin, mais pour atténuer, voire compenser par l'éducation, les effets pervers de la compassion envers les dits inférieurs et leur insouciance. C'est aussi cela l'extension de la sympathie, et c'est en ce sens qu'elle n'est pas le problème, mais la solution, c'est ce que j'ai cherché à défendre, et j'espère n'avoir trahi ni Darwin ni Patrick Thor. Je vous remercie.
Alors moi, j'ai une question. Si on reste sur ce schéma, en fait, la question de l'altruisme a été particulièrement problématique pour Darwin, parce qu'elle ne s'expliquait pas dans un cadre sélectif à l'échelle de l'individu. Et donc, il a eu recours effectivement à la sélection de groupe, à l'idée de sélection de groupe. Mais alors, à ce moment-là, je ne comprends plus très bien, parce que si ce schéma représente la position de Darwin, ça voudrait dire que la sympathie est aussi l'objet d'une sélection de groupe. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'elle pourrait être une qualité accidentelle ? Quelle est l'interprétation de Darwin, en fait ? Est-ce que c'est une qualité accidentelle ?
C'est ça qui est troublant, en fait, puisque Darwin nous dit bien que c'est la compassion qui est un produit accidentel de la sympathie. Or, on avait tendance à déplacer les choses et dire que c'est la sympathie qui
donc
nous
empêche.
Donc
la sympathie est bien un caractère sélectif pour Darwin ?
C'est un objet de sélection.
Oui,
d'accord. Tout à fait. Alors que la compassion, si on raisonne en continuant sur une sélection de groupe, le trait compassion n'est pas garanti, si vous voulez. Mais c'est d'ailleurs pour cela que, mais vous savez, évidemment c'est l'avancement de mon travail, c'est pas l'achèvement, comme je le disais en début, pour cela que vous avez une petite citation dans le rectangle rouge qui dit « Dans les nations très civilisées, qui ne cherchent plus à se supplanter les unes les autres, la sélection repasse du groupe à l'intérieur. Mais enfin, est-ce que j'ai répondu convenablement ?
Donc la sympathie, c'est bien un objet de sélection et c'est à partir de la compassion que ça pose.
J'en profite aussi pour dire, c'est vrai que je n'ai pas parlé du sens moral qui vient après la sympathie. C'est, si vous voulez, c'est l'achèvement, hein, et qui nécessite des instincts sociaux persistants. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce sont des instincts qui ne se déchargent pas à l'inverse de nos instincts classiques et qui servent de référentiel du jugement. C'est-à-dire que vous avez un instinct fort, vous le déchargez, et c'est toujours l'instinct persistant qui est le référentiel du jugement. C'est lui qui vous fera culpabiliser, si vous voulez. Vous rajoutez à cela la sympathie, donc instinct social persistant, sympathie, plus mémoire, faculté morale avancée, et vous avez le sens moral. Et c'est pour cette raison-là que Darwin estime qu'il est d'autant plus important d'instruire les hommes, parce que le travail de la mémoire, qui nous rappelle que nous avons mal agi, etc., est une condition vraiment favorable à la moralité. Donc ça, j'aurais pu vous en parler.
En gros, je pense que vous avez raison dans votre critique de Patrick Thore, et vous avez en particulier souligné une erreur de traduction qui est tout à fait significative et extrêmement importante. Toute cette partie, je suis en gros d'accord avec elle. Je ne vois pas très bien comment vous conciliez l'idée chez Darwin que l'instinct de sympathie ne saurait être... réfréner en ce qui concerne la protection des unfit, et votre conclusion qui me semble aller contre et qui fait presque de Darwin un disciple de Malthus et de Galton. Là, j'avoue que je n'ai pas trouvé cette lecture dans la descendance de l'homme ni cette conclusion. Non pas que je considère que Darwin soit un socialiste, mais je ne considère pas du tout qu'il tende à fonder une méritocratie. Troisième point, je crois que Patrick Thore vous a quand même convaincu d'une chose, c'est qu'il existe une anthropologie darwinienne, ce dont je doute fort, mais ça, nous en avons discuté hier soir. Je ne pense pas que ces chapitres de la descendance de l'homme ajoutent grand-chose à la gloire de Darwin. Alors, et votre tableau, comment dire, à partir de ce tableau, dont je n'ai rien à redire contre ce tableau.
Oh.
Non, sauf que ce n'est pas un tableau pour moi. Il faudrait distinguer divers degrés d'isotopie, diverses influences, voir Adam Smith... voir le voisin de Darwin à Down, qui était Lubbock, l'anthropologue de la théorie. Ce sont les problèmes moraux et sociaux qui se posent aux intellectuels victoriens des années 1870. Enfin, c'est mon opinion, hein. Donc c'est pas une critique sur ce que vous dites, sauf un peu le tirer sur Malthus et Galton, mais c'est... peut-être l'importance que vous attribuez à ce que je n'appellerais pas une anthropologie. En ce qui concerne les faibles qu'il faut protéger, pour Darwin, il y a quand même, il faut le dire, une partie importante de l'humanité faible et qu'il faut protéger, ce sont les femmes. Ça fait quand même, qui sont quand même du côté des inaptes. Et il envisage tout un ensemble de possibilités pour essayer d'amener les femmes au niveau intellectuel des hommes, mais ça lui paraît extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Donc, comment dire, l'extension de son instinct de sympathie est très importante.
Mmh. Oui, si je peux donc répondre. Alors, c'est vrai qu'en général, la descendance de l'homme, en général, on défend la thèse de l'incohérence du texte, souvent. Et j'ai essayé de trouver cette cohérence-là. Et je l'ai trouvée notamment dans le fait que la sympathie était une solution au problème inhérent de la compassion. J'ai voulu montrer ce dépassement, c'est-à-dire ne pas dire qu'il y a la sympathie d'un côté, ou compassion et l'utilité biologique de l'autre, et Darwin s'en tient à la noblesse de notre nature. Non, j'ai voulu insister sur le fait que la sympathie aussi, qui recevra des éloges et des blâmes issus d'une éducation rationnelle, prendra probablement en compte ces questions. Et tout ça, c'est pour rendre cohérent le fait que, en conclusion principale, il nous dit toutes les personnes qui se sentent inférieures sur des qualités intellectuelles ou biologiques devraient s'interdire la descendance. Il enchaîne, il dit, mais tout cela n'aura pas, ce sera une utopie tant que la connaissance des lois de l'hérédité ne sera pas acquise. Et après, il enchaîne en disant, les pauvres aussi devraient s'interdire la descendance. Donc, à partir de ce passage-là, j'en ai inféré peut-être abusivement que la question de l'amélioration, il n'avait pas oublié la question de l'amélioration de l'humanité. Et après, c'est vrai que si on prend la lettre de Galton 412, je dis 412, mieux vaut la date, 4 janvier 1873, plus pratique, où il parle bien avec Galton, envers qui il n'est pas nécessairement hostile. Mais il dit, je ne suis pas d'accord avec vous, j'opte plutôt pour la persuasion. Persuasion, éducation, voilà. Après, le côté concernant la méritocratie, c'est bien possible que j'ai fait une erreur, oui. Je connais mal encore la littérature secondaire ou l'histoire précise de l'Angleterre de l'époque, et ça, c'est une tare. C'est sûr que j'apprendrai et changerai probablement d'avis en connaissant mieux l'époque sociale, les réformes politiques, toutes ces choses-là. Je dis méritocratie un peu. C'est possible que je me sois trompé sur cette chose-là.
C'est l'époque où les hautes fonctions de l'État, avec le gouvernement Whig libéral, c'est l'époque où, dans l'intervention de l'État, on pense à remplacer les grands commis de l'État, qui sont des aristocrates désignés, par des gens désignés sur le monde. C'est-à-dire qu'on ouvre la fonction publique extrêmement restreinte en Angleterre. Où on ouvre ça, donc effectivement, à des gens qui sont méritants, qui ne sont pas les aristocrates, mais ça me paraît.
Bien. Merci. Alors, comme on est déjà très en retard, il n'y aura pas d'autres questions.
Je vous remercie.
Donc on va passer à la dernière communication.
Bien. Alors bonjour, donc je me présente, je m'appelle Maël Lemoine, je suis maître de conférence à l'Université de Tours. La question que je vais aborder, porte sur un champ scientifique légèrement différent, je m'en justifierai, qui est la médecine, la science médicale. Et la question que je vais poser, c'est la question de l'unité ou de la désunité de la science médicale. Je définirai plus précisément ce terme. Alors, pour définir le problème que je pose, quelques points. Premier point, une explication, je vais partir du concept d'explication scientifique. Une explication peut toujours être complétée ou poursuivie en droit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter dans une explication. On peut aller plus loin. Bon, je prends, disons, ce premier point comme acquis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explication parfaite, totale, définitive. Alors même que nous le savons, ou que nous, la plupart du temps, nous admettons ce postulat, nous tenons pourtant certaines explications, je dirais, non pas pour parfaites ou complètes, mais pour satisfaisantes ou suffisantes. C'est-à-dire qu'on estime qu'un phénomène est suffisamment expliqué. Or, la question que je me pose, c'est pourquoi ? C'est-à-dire pourquoi nous arrêtons-nous notre explication à un moment donné ? Pourquoi considérons-nous qu'une explication est complète, enfin pas complète, mais satisfaisante ? Et la réponse, ou l'élément de réponse que je propose, ou que je vais proposer ici, c'est que ce qui donne une fin à l'explication, c'est un ensemble de conditions qui définissent une explication type. Petite parenthèse avant de poursuivre, j'aurais dû le dire avant de commencer, je présente de manière assez rapide quelques éléments d'une thèse que je suis en train de terminer d'écrire, sur un livre que je suis en train de terminer d'écrire sur ce thème de la désunité de la médecine. Donc je vous présente simplement en fait les résultats qui me semblent être les résultats principaux, disons, de ma recherche. Donc, en médecine, voilà la question précise, quelles sont ces conditions qui définissent l'explication médicale type ou les explications médicales type, car c'est la deuxième question que je vais poser, c'est est-ce que ces conditions définissent plusieurs types d'explications qui seraient incommensurables. En d'autres termes, c'est l'hypothèse que je vais défendre ou la thèse que je vais défendre, la médecine se caractérise par le fait qu'elle n'est pas un champ scientifique unitaire, mais un champ scientifique pluriel dans lequel interviennent des explications de types différents. Et j'y reviendrai, mais ce qui fait la force d'une preuve, de la preuve d'un phénomène en médecine, c'est non pas tant l'unité de l'explication ou la perfection de l'explication, mais justement le fait que plusieurs explications de types différents en viennent à la même conclusion. C'est-à-dire c'est la convergence qui fait la preuve en médecine davantage que, la conformité d'une explication à un modèle idéal unique. Alors, je vais prendre un exemple pour définir cette thèse. Je vais partir d'un énoncé, d'un fait à expliquer en médecine. C'est l'exemple de l'action ou de l'efficacité de la cyclosporine. Donc je lis citation, la cyclosporine est un agent immunosuppresseur efficace, unique, qui offre un grand potentiel de contrôle du rejet de greffe. Donc c'est un médicament qu'on utilise notamment dans les greffes, ou qu'on utilisait, parce que, enfin, en tout cas beaucoup, ça a été le premier médicament véritablement efficace pour la greffe. Cet énoncé, je donne quelques éléments pour restreindre un petit peu le champ historique ou pour clarifier un petit peu ça, même si je resterai relativement vague sur ce point, parce que ce n'est pas le point sur lequel je voudrais mettre l'accent. Cet énoncé a été établi à peu près entre 1976 et 1986. C'est-à-dire c'est sur cette décennie-là à peu près que, d'après les recherches que j'ai pu faire, s'est établi cette évidence ou cet énoncé, a été prouvé cet énoncé. Alors, une explication d'une manière générale doit répondre à la question sur quel énoncé ou quels énoncés l'énoncé « la cyclosporine est efficace contre le rejet de greffe » est-il suffisamment fondé ? C'est-à-dire quels sont les énoncés qui fondent cet énoncé ? Alors, je vais... Et c'est là que vous allez voir donc l'hypothèse pluraliste que j'ai annoncée se dessiner. Je vais montrer plusieurs éléments d'explication, plusieurs types d'explications qui viennent à l'appui de cet énoncé ou de cette évidence. Alors, première chose, je vais le dire vite. L'explication, premier type d'explication qu'on appellera ici biologique, sans grande originalité, je dirais, c'est biologique au sens ici de la biologie cellulaire, parce qu'on peut descendre à un niveau plus bas, je dirais, mais je vais retenir celui-là pour l'exemple. Voilà une explication. La cyclosporine inhibe la production d'interleukine 2 par les lymphocytes T auxiliaires. Cette inhibition, à son tour, réduit la prolifération des lymphocytes T cytotoxiques. Or, les lymphocytes T cytotoxiques tuent les cellules infectées de l'organisme, mais aussi les cellules du greffon. Et par conséquent, la réduction du nombre de lymphocytes T cytotoxique limite le risque de rejet du greffon par l'hôte. Voilà l'explication biologique. C'est évidemment très sommaire, hein, je n'entre pas dans le détail. Bon. Donc voilà une explication biologique. Je donne les sources en bas de l'article, mais je passe. Alors, voilà la démarche que j'essaie de prendre. Pourquoi, donc, je repose ma question, cette explication, ce type d'explication est-il satisfaisant ? Pourquoi cette explication est-elle satisfaisante ? Quoique incomplète. En fait, je pense qu'elle est jugée satisfaisante, qu'elle est estimée complète, plutôt satisfaisante que complète, si elle répond à un certain nombre de conditions qui sont les suivantes. Premier, ou des principes, si vous voulez, très généraux, qui eux-mêmes ne peuvent pas être prouvés, plutôt des postulats, je dirais, presque des postulats, mais ce n'est pas tout à fait des postulats. Premier point, tout l'être vivant est constitué de cellules. Là, bon. Deuxième point, tout ce qui, c'est, je veux dire, ce sont des principes qui sont évidents par eux-mêmes, hein, qui posent des évidences, mais c'est une certaine manière de poser des évidences. Vous verrez qu'il y en a d'autres qui définiront d'autres types d'explications, justement. Deuxième postulat, deuxième principe, tout ce qui y advient, tout ce qui advient dans un être vivant, est action de cellules ou action sur des cellules. Et si on tient ces conditions pour complètes, eh bien, expliquer suffisamment un phénomène, c'est tout simplement établir quelles cellules y sont impliquées et que produisent dans un être vivant ces cellules. Qu'est-ce qu'elles y produisent ? Si on a rempli ces deux conditions, on a une explication, je dirais, apparemment exhaustive, en tout cas satisfaisante. Évidemment, qu'est-ce qui y agit ? Bon. Voilà, et c'est ce qui a été fait ici. Je reprends mon exemple de la cyclosporine. Je ne vais pas revenir à la vignette précédente, mais ça correspond à peu près à la restitution que j'ai donnée. Là, je reste encore en très sommaire, hein, je l'ai dit, de l'action de la cyclosporine. Voilà un premier type d'explication. Là, encore une fois, je vous dirais que c'est. Je sais que c'est très sommaire. Bon. Voilà, alors une petite remarque avant de passer aux autres types d'explications, parce que je ne voudrais pas donner le sentiment que toute explication biologique repose sur ces postulats très simples qui concernent plutôt la biologie cellulaire. Je crois qu'il y a d'autres types d'explications biologiques en médecine qui reposent sur d'autres conditions ou d'autres principes, hein, qui sont légèrement différents, qui ne sont pas incompatibles. Hein, on ne parle pas d'incompatibilité ici, mais on parle de conditions qui sont différentes. La première... je dirais, c'est l'explication, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'explication en immunologie, qui correspond sur des conditions d'exhaustivité qui sont différentes. C'est-à-dire qu'on estimera qu'un phénomène est expliqué en immunologie si on est arrivé à une explication par sélection. Et c'est le modèle du système immunitaire proposé par Burnett. L'explication génétique, elle va reposer sur des conditions d'exhaustivité légèrement différentes que je vais, là je vais aller très vite, hein, mais c'est à peu près ce qu'on appelle le central dogma de Crick, c'est-à-dire l'idée que de la séquence ADN-ARN-protéine. C'est-à-dire que si on explique un phénomène par cette séquence, on l'a expliqué de manière satisfaisante. Alors, maintenant, la remarque qui s'impose, je pense, c'est que même si l'explication ici, je récite au biologique pour faire vite, même si c'est pas très élégant, est suffisante en son genre, elle ne l'est pas dans l'absolu en médecine. C'est-à-dire que ça suffit pas, on peut pas s'arrêter là en médecine, on peut pas s'arrêter à une simple explication biologique. D'abord, on peut poser une question plus précise. On peut se demander pourquoi la cyclosporine agit-elle sur la production d'interleukine 2 par les cellules T auxiliaires. Pourquoi ? Et là, on pousse l'explication plus loin et on va arriver à une explication d'un autre type, qui sera, disons, plutôt l'explication de biologie moléculaire ici. Et puis, deuxième remarque qui, je pense, est plus fondamentale ici, c'est qu'une explication biologique est une condition nécessaire, ou est tenue pour une condition nécessaire, mais non suffisante, pour fonder en médecine, pour le médecin, l'énoncé de l'efficacité de la cyclosporine. Ça ne suffit pas. Ça ne peut pas suffire. Hein, si ça suffisait, il suffirait de s'arrêter à l'étude in vitro, tout simplement. Hein. Donc il y a des explications d'autres types, complètement différents. Je vais passer plus vite. Je vais de manière à en voir plusieurs. Je pense que c'est plus intéressant que d'insister sur le détail de chacune. Donc je viens de le dire, expliquer l'action, et c'est peut-être assez paradoxal, mais enfin expliquer l'action de la cyclosporine n'explique pas l'efficacité de la cyclosporine. Elle pourrait être tout à fait inefficace, bien que parfaitement expliqué sur le plan biologique. On a des tas d'exemples de molécules qui ne vont pas passer le cap de ce qu'on appelle par exemple les essais cliniques. C'est-à-dire elles sont théoriquement, on va dire, on dit parfois elles sont théoriquement efficaces, mais elles ne sont pas réellement ou empiriquement efficaces, ou cliniquement efficaces, on dit parfois aussi. Qu'est-ce qui va mettre en évidence cette efficacité? Le deuxième élément d'explication, c'est ce qu'on appelle les essais cliniques. Je pense que le mot clinique d'ailleurs n'est pas tout à fait adapté ici, mais peu importe. C'est l'expression consacrée, vont mettre en évidence l'efficacité d'un traitement. Ils vont expliquer le fait en fondant l'énoncé sur d'autres énoncés par une explication qui n'est pas causale. En épidémiologie, il n'y a pas, enfin c'est objet de débat, mais c'est quand même la position la plus consensuelle à ma connaissance, il n'y a pas d'explication causale. L'épidémiologie n'offre pas d'explication causale. L'épidémiologie, au contraire, établit une association entre des caractéristiques. Une simple association, hein, étudiée statistiquement, des fréquences d'association ou de corrélation. Alors, dans ces conditions, ou dans ce modèle, hein, modèle est peut-être le mot qui convient, je ne suis pas sûr, enfin, dans ce type d'explication en tout cas, l'explication est suffisante. Si l'échantillon testé est représentatif, c'est-à-dire la partie peut valoir pour le tout. Hein, on fait un test sur un groupe de patients donnés et on peut conclure à une population sur laquelle on n'a pas testé. Alors évidemment, ici aussi, je simplifie, c'est beaucoup plus compliqué. Deuxième condition, les facteurs de confusion sont neutralisés par une répartition aléatoire. C'est-à-dire tous les facteurs qui pourraient influencer le résultat et qui feraient que nous l'attribuerions au médicament, à tort, eh bien tous ces facteurs peuvent être neutralisés si on répartit, c'est un postulat, si on répartit aléatoirement les patients dans deux groupes, de manière que les deux groupes soient totalement indistincts. Si l'étude correspond à cette deuxième condition aussi, alors elle peut être satisfaisante ou suffisante. Et il y a un troisième principe que je vais évoquer ici, c'est le fait, ou c'est le présupposé, plutôt le postulat, que les associations, ou le principe, que toutes les associations expérimentales ont été testées. Voilà, je donne la source de... Vous voyez, juste un petit mot. Toutes ces études ont été menées à peu près, enfin, évidemment, elles ont continué après 1986, mais toutes ces études ont été menées entre 1976 et 1986. Et on pourrait, j'ai pris, hein, je dirais, une échelle moyenne. On pourrait rétrécir, hein, on pourrait rétrécir sur les travaux essentiels et dire que tout est quasiment établi en 1983. Donc c'est vraiment même pas 10 ans. Hein. C'est extrêmement rapide ici. Pas toujours le cas. Alors maintenant, troisième type d'explication, celle qu'on appellerait peut-être le plus proprement médicale et que j'appellerais ici clinique. Et je pense qu'elle est aussi indispensable pour le médecin. C'est-à-dire que le médecin ne s'en tiendra pas à une explication épidémiologique, à une explication biologique. Il va demander pour que le fait soit fondé avec une certaine évidence, pour que le fait lui paraisse expliqué. Il va demander également que se produise ce qu'on pourrait appeler une évidence clinique ou une explication clinique qui va être constaté, alors, par exemple, dans le cas de rejet de greffe rénale aiguë, par des signes cliniques qui sont les suivants, je ne les lis pas, vous voyez, bon, fièvre, etc., prise de poids, baisse de diurèse, hypertension. Et donc, on repose la question, pour voir quel va être le type d'explication. Pourquoi est-ce un rejet de greffe ici? L'explication de type clinique, c'est parce qu'il y a les signes A, B, etc., N. Donc l'explication est d'un type différent. Inversement, pourquoi est-ce efficace? Parce qu'il n'y a pas les signes A, B, etc., N. Donc, du point de vue clinique, la cyclosporine est efficace. Ce même énoncé, hein, qu'on a vu, que j'ai essayé d'analyser rapidement, sommairement sur le plan biologique et épidémiologique. Sur le plan clinique, cet énoncé est considéré comme expliqué si, première condition, tout ce qui est significatif est observable. Évidemment, ça a des limites, ce principe. Hein. C'est les limites même du champ clinique. C'est-à-dire, si vous arrivez au-delà de ce qui est observable, par des signes cliniques, évidemment, cliniquement, on y est aveugle. Deuxième principe qui me semble important pour le raisonnement clinique du médecin, l'état du patient doit constituer un tout. L'état du patient constitue un tout et par conséquent est visible à cause de ce caractère un petit peu, je ne sais pas comment dire, holiste, ce n'est pas le mot qui convient, mais enfin synoptique plutôt, à cause de ce caractère synoptique, on peut dire ça comme ça, tout trouble local va être visible au niveau global, je veux dire comme ça. Et enfin, troisième élément de cette évidence clinique, l'idée que toute pathologie est identifiable. Alors, je m'explique rapidement. Il y a un autre élément qui fait évidence pour le clinicien, c'est que le diagnostic qu'il a fait est le bon par opposition à d'autres diagnostics possibles. Donc, il doit présupposer, ou il présuppose généralement, que l'ensemble des diagnostics qu'il a à sa disposition est l'ensemble des diagnostics possibles. Donc, s'il en choisit un, il le choisit contre tous les autres diagnostics possibles. Et donc ça produit un effet de renforcement de l'évidence. C'est l'évidence que je pourrais appeler, ou qu'on pourrait appeler, nosographique. Bon, je vais très vite, il faudrait que j'explique plus longuement ces points. J'en viens à l'explication de type pharmacologique, qui me semble être répondre aussi à des conditions différentes. Donc on repose la question, pourquoi la cyclosporine est-elle efficace ? La réponse générale, c'est la cyclosporine est un principe actif. Alors on constate, elle a été découverte d'abord sous la forme, c'est en fait un antibiotique. C'est pas vraiment sa classe, c'est intéressant, parce que sur le plan biologique, c'est d'abord repéré comme un antibiotique. Sur le plan pharmaceutique ou pharmacologique, en fait, c'est pas défini comme un antibiotique, parce que c'est pas efficace, ou peu efficace comme antibiotique. Par contre, très efficace comme immunosuppresseur. Donc on va définir sur le plan pharmacologique, on va définir la cyclosporine comme un immunosuppresseur. Et c'est sur ce plan-là également qu'on peut constater ce qu'on appelle des effets secondaires. Ici, des effets secondaires néphrotoxiques. Donc ça, c'est le premier principe. Deuxième principe de cette explication pharmacologique, c'est que, et ça semble aussi une évidence, c'est une évidence, c'est que c'est seulement mise en présence de sa cible que la cyclosporine produit son action. Donc un des éléments importants, c'est qu'il faut, en pharmacologie, et là j'opposerai ça à l'approche biologique, c'est qu'il faut qu'on puisse mettre le principe actif en présence de sa cible. Et ça, c'est pas évident, c'est pas toujours évident. Il y a des tas de produits ou de substances chimiques qui pourraient être efficaces contre des maladies, mais qu'on ne peut pas prescrire tout simplement parce qu'on ne peut pas les faire arriver jusqu'à leur cible. Ils sont détruits par l'organisme, par exemple, ou ils ont une durée de vie qui n'est pas suffisante, ou etc. Et ça, c'est un élément plutôt du type pharmacologique. Voilà, je passe ici. Et il me semble qu'il y a un troisième principe qui est important aussi. Pour que se produise l'évidence la cyclosporine est efficace, il faut présupposer, comme on le fait toujours dans une explication pharmacologique, que son action répond à une intention thérapeutique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une intention thérapeutique pour que ce soit évident que c'est efficace. Il faut vouloir soigner quelqu'un avec quelque chose qu'on va lui prescrire, un médicament qu'on va lui prescrire, pour qu'il puisse devenir évident que c'est efficace. C'est une condition. Il faut en quelque sorte que ça rentre dans une stratégie thérapeutique. Ici, je donne l'exemple, la cyclosporine doit être administrée avant ou pendant les 24 heures de l'immunisation. Et deuxième exemple, toujours sur la cyclosporine, elle agit mieux. Et ça, c'est simplement pourquoi agir mieux. Agir mieux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on a une intention, précise, quand on veut par exemple prévenir un rejet de greffe, c'est seulement à cette condition-là qu'il peut être évident que, par exemple, la cyclosporine est plus efficace que l'azathioprine qui était utilisée juste avant la cyclosporine. Donc c'est ce principe-là, j'insiste dessus, est lui aussi une condition de l'explication pharmacologique. Donc voilà, les conditions, je les ai déjà explicitées, donc là c'est peut-être inutile, je vais passer à la suite. Ce que j'appellerais l'explication, ou ce qu'on appellera plutôt l'explication mécanique. Et je vais le dire de la manière suivante, un énoncé qui est très général ici, est mécanique toute explication qui reconduit un phénomène à l'évidence de la forme, j'entends ici la forme géométrique, du mouvement et de la force. C'est évidemment assez général. Donc quand on se pose la question dans cette optique, avec ce type d'explication en vue, pourquoi la cyclosporine est-elle efficace ? Le type de réponse le plus satisfaisant, ça sera à cause de sa structure moléculaire et de celle de son récepteur. Pourquoi ? Parce qu'on arrive ici à une évidence de type forme, mouvement, force. Forme ici. Et cette explication, ça c'est une remarque que je tiens pour importante, cette explication est souvent tenue pour ultime. Le type d'explication mécanique est très souvent tenu pour l'explication ultime, celle au-delà de laquelle on ne peut pas aller, celle qui produit la plus grande évidence. Et les autres, c'est le problème théorique que se posent les philosophes souvent, les autres explications, autres types d'explications, devraient pouvoir être réduites à l'explication mécaniste. Alors, l'exemple de la médecine, ici je fais la remarque, me semble montrer que c'est, en tout cas en médecine, ça semble impossible. Ça n'a pas grand sens, on pourra y revenir. Voilà, donc je vais conclure. Simplement quelques points pour rassembler un petit peu ces résultats et voir dessiner, disons, l'ensemble de la thèse. Ce qui semble pouvoir être établi, c'est que les types d'explications sont incommensurables les uns aux autres. C'est-à-dire, on ne peut pas les réduire aux uns aux autres. Et ce sont des explications de type différent. D'où l'expression que je pense pouvoir utiliser de valeurs explicatives. Pourquoi valeur en plus, parce qu'elle repose sur des postulats, ou si vous préférez des croyances, je ne m'attacherai pas forcément au mot, ce n'est pas postulat au sens géométrique du terme, par exemple. Et ces postulats, donc simplement des principes, si vous voulez, non prouvés, qui semblent évidents par eux-mêmes, ces postulats rendent compte du caractère satisfaisant de l'explication. Comment ? En délimitant l'ensemble des conditions initiales nécessaires et suffisantes pour l'explication. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine, si on suit ces principes, on se dira qu'il y a des phénomènes qu'il est inutile d'explorer. Ça ne donnera pas davantage d'éléments explicatifs. De plus, pourquoi je parle ici de valeurs explicatives ? Précisément parce qu'il y a plusieurs types d'explications possibles. Et je pense, sans pouvoir le montrer, mais enfin je ne vois pas pour quelles raisons on devrait clore le champ des types d'explications possibles. Je pense que un simple coup d'œil sur l'histoire de la médecine montre, au contraire, que les types d'explications se sont juxtaposés plutôt que remplacés les uns les autres. Et que l'explication hippocratique, le type d'explication hippocratique clinique, si vous voulez simplement clinique, eh bien ce genre d'explication-là, il est toujours là, aujourd'hui. Ah, évidemment, il y a des choses qui disparaissent. La théorie des humeurs disparaît. Bien sûr qu'il y a des choses qui disparaissent. Mais à chaque fois, c'est pour ça que je préfère ne pas parler de paradigme au sens kuhnien, puisque les paradigmes sont censés quand même se remplacer et non pas s'accumuler. Ici, je crois que c'est ce que montre la médecine, c'est au contraire qu'il y a accumulation et réorganisation. À chaque fois qu'un type d'explication nouveau surgit, les autres types d'explications se modifient un petit peu en retour. Et puis, il y a évidemment collaboration entre ces types d'explications. Alors, dernier point pour lequel je parlerai de valeurs explicatives, je crois qu'elles sont toutes équivalentes en objectivité. C'est-à-dire, ça semble curieux de dire qu'une science, une science objective est fondée sur des valeurs. Valeur, ici, veut simplement dire choix des principes explicatifs. Ça ne met pas en cause l'objectivité des résultats. en aucune manière. Une fois que, pour le dire autrement, une fois que vous avez choisi ou vous avez adopté ces principes explicatifs, ceux qui correspondent à un champ scientifique particulier, eh bien, il est évident que vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez ou faire n'importe quoi. C'est objectif. Et le deuxième point qui me semble important dans ce modèle de la désunité, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la convergence des explications. C'est-à-dire, aucune explication ne suffit à soi seule, malgré son évidence propre. Et deuxième point, c'est la confirmation des explications les unes par les autres, le fait qu'elles se renforcent justement, d'autant plus qu'elles sont hétérogènes. C'est-à-dire, plus on arrive par des voies différentes au même résultat, et plus le résultat semble fondé ou évident. C'est-à-dire, pour prendre un exemple concret, le scientifique qui fait sa recherche sur la structure de la molécule, la cyclosporine et de son récepteur, arrive au résultat qu'a priori ça doit être efficace. Si le clinicien dit « moi je constate que c'est efficace », si l'épidémiologiste dit « eh bien moi je fais des études sur des cohortes et je vois que effectivement c'est efficace », si, etc., si chacun dit « c'est efficace » avec sa propre méthode, évidemment l'évidence de l'efficacité s'en trouve renforcée. Donc c'est un modèle, ce modèle de la désunité que je propose, c'est un modèle convergentiste, on pourrait dire, hein, si on veut à tout prix mettre une étiquette, un adjectif de ce type. Voilà, donc quelques conclusions plus générales, et là ça va être très rapide. Ce modèle proposé fait l'hypothèse que la médecine a une scientificité d'une autre nature que la biologie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la médecine est simplement une branche de la biologie. Pourquoi ? Parce qu'elle a effectivement des modes d'explication qui lui sont propres et qui sont eux aussi scientifiques. Pour autant, évidemment, la biologie est un des éléments fondamentaux de la scientificité de la médecine. Et on pourrait même dire, je pense qu'on peut dire, qu'elle n'est devenue réellement scientifique au sens où on l'entend aujourd'hui, mais enfin, il faut s'entendre sur le sens des mots, qu'à partir du moment où la biologie y est entrée. Y a fait son entrée. Voilà, ce modèle que je propose, je voudrais le situer rapidement maintenant, très rapidement, en fonction des éléments de modèle de plusieurs autres auteurs que je n'ai pas cités dans le courant de l'exposé, donc Kuhn, dont j'ai parlé. En fait, ici, je trouve que l'idée de paradigme est relativement pertinente, à condition, ce qui entraîne des modifications assez importantes de son modèle, que les paradigmes soient conçus ici comme synchroniques, c'est-à-dire ils sont simultanés. Il y a plusieurs paradigmes et pas seulement en période de crise, comme le dit Kuhn. C'est-à-dire que c'est l'état normal de la science et qu'il y ait plusieurs paradigmes. Et qu'ils ne soient pas en lutte les uns contre les autres, mais au contraire, qu'ils soient en collaboration les uns avec les autres. Donc évidemment, on ne peut plus parler de paradigme au sens où Kuhn l'entend, mais enfin, cet élément me semble important. Ce qui me semble intéressant aussi, c'est la position de Lakatos, cette thèse des noyaux durs et des versions de théorie. L'idée qu'en fait, il n'y a pas une théorie dans une science, mais des versions de théorie qui se remplacent, ou des séries de théories. Et il y a aussi, comme il le dit, je trouve que l'expression est bien choisie, des noyaux durs. Et ces noyaux durs, je n'entre pas dans l'analyse plus avant, disons, de sa position, mais ces noyaux durs correspondent bien, je pense, à ce que j'appelle des valeurs explicatives. C'est-à-dire, ce sont des principes qui ne sont pas des principes métaphysiques, comme il le dit ou utilise cette expression, ce n'est pas des principes métaphysiques, c'est des manières d'énoncer des évidences, des choses qu'on va tous reconnaître, on admettra tous comme parfaitement évidentes. Rapidement, de Taggart, je retiens le livre « How Scientists Explain Disease », je retiens l'idée d'un modèle intégré, ou j'emprunte plutôt, l'idée d'un modèle intégré de plusieurs types d'explications, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des niveaux d'explication, sauf que bon, les types d'explications dont je parle sont complètement différents de ceux de Taggart. Et enfin, notre référence qui me semble importante, ou par rapport à laquelle je voudrais me situer le modèle que je propose, c'est le modèle de Schaffner dans Discovery and Explanation in Biology and Medicine. Je retiens la thèse, je suis tout à fait d'accord avec cette thèse que les théories biologiques et médicales sont d'une structure différente des théories physiques. Mais je le dis, je confesse que c'est simplement un préjugé qui me plaît bien, parce que je ne suis pas du tout spécialiste des théories de la physique. Ça me semble effectivement être assez différent, parce que je ne vois pas trop peu importe ici. Par contre, je trouve que Schaffner a tendance à, c'est pas qu'il a tendance, c'est qu'il le dit explicitement, à rabattre les théories biologiques sur les théories médicales, et donc à disons, attendre avoir un modèle un petit peu unitaire qui me semble dommage de garder. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est cette idée qu'il défend d'une généralité de portée moyenne, c'est-à-dire des théories middle range, comme il dit, c'est-à-dire de portée moyenne, c'est-à-dire qui ne vont pas jusqu'au bout et qui caractérisent, selon lui, les théories biologiques, hormis les deux grands modèles, dit-il, de la génétique moléculaire, d'un côté, qui est absolument universelle, dit-il, et de l'autre, de la théorie darwinienne, de la sélection. Entre les deux, les théories qu'il appelle biologiques et médicales ont simplement une portée qui ça explique certains phénomènes, pas d'autres. Hein, donc il y a cette idée, moi je trouve dans cette idée de théorie de portée moyenne, la nécessité finalement la nécessité d'une pluralité, alors, on va dire lui théorie, moi je dirais peut-être pas théorie, pour construire le champ de l'objet qu'on cherche à étudier. Hein. Voilà, donc je m'arrête là, je vous remercie de votre attention.
Je trouve très intéressant d'essayer de voir effectivement les différents types d'éléments qui sont convoqués pour justifier quelque chose. Mais ce qui me trouble, alors je vous fais part de mes troubles. Ce qui me trouble, c'est votre emploi du mot explication, en fait. Mm-hmm. Moi, j'aurais tendance à dire, comme ça, en regardant ce que vous nous exposez, que certains méritent d'être appelés des explications de l'efficacité de la cyclosporine. Et l'autre mérite d'être appelé des explications d'autre chose, par exemple de la validité d'un diagnostic, et d'autres méritent peut-être d'appeler des justifications. Par exemple, dans le domaine d'épidémiologie, on a envie de tester, parce qu'on voit très bien comment un mécanisme dont on comprend une partie pourrait être contré par des mécanismes qu'on ne maîtrise pas, qui seraient dans le corps, etc. Et donc on a besoin de tester épidémiologiquement qu'effectivement ce mécanisme qu'on a détecté, est efficace, est contré par rien d'autre, etc. Mais est-ce qu'on explique, est-ce que ce qu'on constate par l'épidémiologie, c'est expliquer l'efficacité de la cyclosporine ? Non, on justifie le fait qu'on a de bonnes raisons de penser que la cyclosporine agit et que si elle agit, c'est via ce mécanisme. Mm-hmm. Donc je suis troublée par, moi j'aurais tendance à remplacer, disons, à prendre comme terme général, non pas explication, mais justification. Et je dirais, oui, là vous avez plusieurs niveaux de justification en médecine, mais seulement certaines d'entre elles méritent d'être appelées des explications de l'efficacité de la cyclosporine, entendons-nous. Voilà, c'est ça qui me troublait. Et donc à ce moment-là, disons, il y a une espèce de, bon, après on pourra en parler, mais d'idée d'incommensurabilité qui semble ne plus aller si naturellement de soi. Et vous avez l'air de penser que les différents niveaux ne peuvent pas se complémenter les uns les autres. Et c'est ça que j'ai du mal aussi à comprendre. Voilà.
D'accord. Alors, je pense que peut-être que la gêne ou le trouble, à utiliser le mot explication, vient du fait que je reconnais tout à fait la possibilité d'explication non causale. Peut-être entendez-vous par explication des explications qui sont seulement causales. Ce qui sera le cas des explications biologiques et des explications que j'ai appelées, moi, mécaniques, ici.
Bon, j'avoue que j'ai peut-être une petite tendance à ça, mais disons, il n'y a pas d'alternative à ce moment-là entre des explications ou des justifications. Est-ce que explication, c'est simplement justifier le fait qu'on est autorisé ou qu'on a de bonnes raisons de penser que la cyclosporine agit ? Bon, en quel sens vérifier que sur des personnes bien choisies, etc., la cyclosporine semble statistiquement agir est une explication de l'action de la cyclosporine. Vous diriez que c'est une explication de l'action de la cyclosporine ?
Ça me gênerait pas, mais je pense que c'est. Enfin, j'ai le sentiment, j'entends bien, hein, parce que je crois que c'est quelque chose qui peut gêner. Donc, je pense que vous avez raison de le dire, mais. Pour moi, c'est juste une question de terme, parce qu'en fait, l'idée est à peu près la même. Donc, le mot justification aura peut-être l'inconvénient d'être plus général et d'empêcher de montrer le parallélisme de ces différents procédés. Et explication ne me gêne pas. Dans la mesure où on va le trouver, on peut le trouver dans le. Enfin, le médecin dira. Si vous voulez. Enfin, je sais pas, si on dit qu'une explication, c'est la réponse à une why question, à une question pourquoi.
Proposer la cyclosporine comme donc il y a bien un niveau où ça explique quelque chose, l'épidémiologie des données, l'épidémiologie. Est-ce que vraiment ça explique le fonctionnement de la cyclosporine? Vous pensez que si le patient demande à son médecin pourquoi la cyclosporine agit, le médecin pourrait lui répondre par l'épidémiologie?
Est-ce que vous ne croyez pas qu'en posant cette question, vous identifiez fonctionnement de la cyclosporine et efficacité de la cyclosporine? Voilà, le fait qui intéresse le médecin, ce n'est pas seulement le fonctionnement de la cyclosporine, c'est l'efficacité. Donc la question, c'est pourquoi c'est efficace. Et quand vous posez la question pourquoi c'est efficace, vous pouvez l'interpréter en termes de fonctionnement, mais vous pouvez aussi l'interpréter en termes d'évidence épidémiologique, par exemple. Corrélation fréquente, enfin, vous voyez. Mais je retiens... Bon, mais je retiens bien, je crois que vous avez raison, ça peut être gênant.
Je suis un peu d'accord avec François, ça passe mal, hein, l'explication épidémiologique pour moi aussi. Mais je pense, bon, ça n'enlève pas votre thèse de la pluralité des explications. Et ça, j'ai beaucoup de sympathie pour cette thèse. Mais ma question, c'était vous... Alors, je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous limitez à la médecine? Ou est-ce que vous pensez qu'en réalité, c'est quelque chose qui existe dans les autres sciences, mais qui est peut-être plus évident en médecine que dans d'autres sciences?
Là, ça dépassera ma compétence. Je connais le seul domaine sur lequel j'ai travaillé cette théorie, c'est la médecine. Ça me semblait frappant pour la médecine. En biologie, il y a des modèles qui ont été proposés, bien sûr, de la désunité de la, bien sûr, pour la physique aussi, ça a été proposé. Mais est-ce que ça n'a pas tout à fait le même sens, il me semble.
Entre darwinisme et explication moléculaire, il me semble que ça rentre assez bien avec votre schéma.
Ouais, pour ça, oui. Ouais, c'est vrai.
Et alors la question suivante, c'est, je pense que, mais ça c'est plus une piste qu'une question, je pense que la médecine a peut-être quelque chose de particulier, c'est qu'il faut un résultat. C'est-à-dire qu'il y a une application en médecine, il y a tout de suite. Et que les sciences où l'application est très proche de l'explication ont peut-être plus besoin d'une pluralité d'explications que des sciences où, d'une certaine manière, l'application est plus éloignée. Donc ça serait le côté appliqué. Il faut des résultats, au fond. Il faut que ça marche, qui ferait qu'en médecine, on verrait mieux cette pluralité, alors que dans d'autres disciplines, elle serait peut-être moins évidente. Mais
elle serait là, mais moins évidente.
Oui.
Ah, d'accord.
Moins visible.
Je crois qu'on va arrêter là, parce que sinon, on aura du mal à...
Le terme expliquer pourquoi. Et il me semble que le propre du biologiste, c'est d'essayer d'expliquer comment. Et je partage entièrement l'opinion de Mme Longy, en ce sens qu'il faut distinguer explication et justification. Je ne veux pas entrer dans plus de détails, mais je rappelle que toutes ces questions ont été discutées il y a déjà maintenant 120 ans par Claude Bernard et ses successeurs, et en particulier c'est Eugène Gley, au moment du cinquantenaire de la Société de biologie, qui a insisté sur le fait qu'on était en train de passer d'un type d'explication uniquement consacrée, axée sur la détermination du mécanisme de production des phénomènes, à une explication mécanique des phénomènes. Et aux environs de 1890-1900 que la biologie a pris ce tournant majeur en ce qui concerne sa méthode de travail et ses perspectives.
Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais je dirais que la biologie, pour donner un élément de réponse, la biologie qui explique bien comment n'est pas le tout de l'explication en médecine. Ou si vous voulez, justification, si vous préférez pour le mot... D'accord. Bon, mais il faudra... D'accord.